Je remercie tous ceux qui réagissent et qui font part de leur réaction de telle manière que nous puissions toujours davantage affiner et aussi rectifier le discours. Il y a des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur, alors voilà, je peux avoir des paroles quelquefois un petit peu tranchées. Il m'a été fait la remarque comme quoi Dieu parlait aussi dans des moments tranquilles. Saint Ignace parle des moments de consolation, c'est-à-dire des moments en fait de paix profonde. Moi, quand je parle par rapport à la tranquillité, vous voyez, c'est plutôt le danger, le confort, voilà, on s'installe. Donc aussi, il faut penser que les épreuves, c'est plus que la souffrance. Les épreuves, c'est les routes barrées, c'est les événements qu'on ne comprend pas, mais c'est beaucoup plus large que la souffrance. La croix, c'est plus que la souffrance. Voilà, nous avons vu donc le chemin de disposition du cœur qui nous permet de nous rendre plus disponible à la lumière divine, notamment donc par la purification de l'intention profonde, de l'intention du cœur. Étant donné l'unité de la personne humaine, âme et corps, il va de soi que le jeûne peut aider à garder un cœur éveillé. Rappelez-vous ce que dit Jésus, tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche, l'ivronnerie, les soucis de la vie. Alors on peut prendre aussi l'ivronnerie au sens de l'ivresse du travail, l'alcoolisme du travail, mais on peut aussi le prendre au sens premier, c'est-à-dire toutes ces petites jouissances que l'on se permet et qui apesantissent le cœur et qui nous préparent à tomber dans des pièges. Donc d'une manière habituelle, vous voyez, on ne peut jamais se relâcher, au sens de se laisser aller à un petit besoin de jouissance immédiate comme ça, un petit peu égoïste comme ça, qu'on se donne un petit droit. Mais il faut rester sobre, garder une sobriété, parce que quand on se laisse aller à ce besoin de jouissance immédiate, la débauche, l'ivresse, l'ivronnerie, eh bien, il y a nécessairement un appesantissement du cœur. Et donc, en fait, les pièges, ils vont venir derrière. Alors, c'est pas facile dans un mariage, c'est pas facile dans un dîner mondain. Mais si on veut rester témoin du Christ, il n'y a pas 36 000 chemins. Vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est-à-dire, on garde une certaine réserve. On mange bien, on remercie le Seigneur pour les bonnes choses qu'il nous donne, mais on garde une certaine... Alors, on se laisse pas aller. On se laisse faire par Dieu, mais on se laisse pas aller. Là, si vous voyez, mais en fait, la vie est un combat continuel, hein. Il y en a un qui rôde continuellement et qui cherche la faille. Il ne faut pas penser qu'à un moment on puisse... Voilà, je me mets hors combat et... Bien. Il s'agit, quand Saint Paul dit « Soyez sobre en vue de la prière », c'est un peu une sobriété permanente, je dirais un état de sobriété qui favorise un état de prière, qui fait qu'on ne cherche pas à combler, je dis artificiellement, le vide de l'âme. Et cette sobriété maintient donc l'esprit de prière en tant que c'est la soif de Dieu qui est le cœur de la prière. Là, vous avez dans les prières du carême, hein, invitations, voilà, que notre esprit affiné par la maîtrise de nos sens, que notre esprit affiné par la maîtrise de nos sens resplendisse aux yeux de Dieu du désir de le trouver. Donc garder un cœur, une intention tournée vers Dieu, ça va aussi avec certaine manière, de vivre le rapport à la jouissance et à tout ce qui peut nous nourrir, y compris les images, la musique.
Donc c'est sûr que quelquefois la 16 nous conduit à être en contact avec, avec notre avec un certain vide intérieur. Et pour certains d'entre nous, ça peut être plus difficile que pour d'autres. Donc il y a quelque chose à apprivoiser aussi en se laissant être en contact, voilà, avec un manque, avec un vide qui quelquefois vient de très loin. Mais ça s'apprivoise. Et là, il faut aussi ne pas placer la barre trop haute, aller pas à pas doucement.
C'est un petit peu grâce aux semaines de jeûne, à la semaine de jeûne paroissiale pendant le carême les années précédentes qu'on a eu la grâce de retrouver ce sens du jeûne. Il a fallu, j'allais dire, quelque chose d'un petit peu radical pour nous permettre de le mettre en place de façon plus régulière dans notre vie. Pour moi, en fait, ça a creusé, j'allais dire, en moi, la soif de Dieu comme nourriture. Et c'est vrai que dans le cadre de ces semaines, quand la nourriture du jour est en fait le pain eucharistique, le pain du Seigneur, le corps du Christ, eh bien, on redécouvre cette joie de vivre toute unie à Dieu dans l'Eucharistie et cette place de l'Eucharistie dans notre vie. Et puis, en fait, on se rend compte de notre pauvreté dans cette ascèse régulière des combats que ça représente pour nous, parce qu'on est quand même dans une société où il y a beaucoup de facilité, et c'est pas facile de choisir la sobriété en toute chose. Je crois que c'est jamais acquis, et c'est des petits pas quotidiens. Et je trouve que pour moi, en tout cas, le fait de porter profondément une intention de prière, ou par exemple dans le cadre de l'accompagnement d'une personne, pouvoir la porter jusque dans cette ascèse du corps par des petits sacrifices, eh bien ça, voilà, ça a été un chemin de redécouverte pour moi.
Nous avons dans l'Écriture l'exemple de Daniel qui, pour pénétrer la parole, pour comprendre ce que Dieu voulait lui dire, n'a pas mangé de nourriture désirable pendant 3 semaines. Et Dieu lui dit, ne crains point Daniel, car du premier jour où pour comprendre, tu as résolu de te mortifier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. J'étais très frappé d'entendre que dans le judaïsme, il y a des grands rabbins, comme il y a des grands théologiens dans l'Église, qui sont consultés par rapport à des cas de conscience. Vous savez que les juifs font régulièrement appel aux rabbins pour résoudre leurs cas de conscience par rapport à l'application de la loi. Et j'ai appris il y a quelque temps qu'ils prenaient quelquefois plusieurs jours de jeûne pour répondre. Il ferait une ascèse sévère quand ils avaient affaire à des situations vraiment extrêmement délicates à discerner. Et Josiane m'a dit que dans la tradition orthodoxe, c'était toujours bien vivant.
Oui, on disait dans une certaine communauté orthodoxe, quand une femme fait une fausse couche, par exemple, ils disent que c'est toute la communauté qui est concernée dans ce moment-là, il y a un moment de jeûne et de prière.
Oui, à ce moment-là, dans l'intercession.
Oui.
Mais pour discerner, pour faire
aussi.
Aussi.
Oui.
Le jeûne a une valeur évidemment aussi sacrificielle, dans laquelle on rentre davantage dans la compassion et on porte davantage aussi les autres. Mais là, je parle de la tradition du jeûne, vous voyez, pour discerner. C'est intéressant de voir que ça existe. Je vous invite à relire Hébreux 4:12, qui dit que la parole de Dieu est comme un glaive qui pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, qui peut discerner les réflexions et les intentions du cœur. Donc dans ce travail de purification du cœur aussi, savoir se servir de cet instrument qui est la parole de Dieu, qui nous révèle l'intention cachée aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Et des fois, pour purifier l'intention en faisant la lumière sur cette intention secrète du cœur, on a besoin d'une retraite. Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. Je souligne aussi que la confession, se confesser avant de prendre une décision importante, ce n'est pas du luxe. Parce que c'est un acte d'humilité qui laisse aussi passer la lumière. Dieu donne sa lumière aux humbles. Se confesser, faire une retraite, jeûner, se confronter avec la parole de Dieu, plutôt que de faire un travail d'introspection. Alors, cela ayant été dit, je vais essayer maintenant, après avoir vu le travail sur le cœur, de voir la manière dont nous pouvons utiliser notre intelligence, notre capacité intellectuelle pour discerner, parvenir à la pensée conforme à la pensée divine, au projet divin. Est-ce qu'on peut dégager quelques principes de base ? D'abord, c'est que Dieu nous parle vraiment. Donc, il nous fait des signes. On ne discerne pas simplement en laissant la lumière se faire dans notre cœur. Remarquez, ça peut arriver, hein, que Dieu mette une lumière comme ça sans qu'il y ait de signes. Qu'il mette dans notre cœur une certitude. On ne sait pas pourquoi. Bon. Mais le plus souvent, il parle à travers des signes. Des signes extérieurs, donc. Et le discernement spirituel, c'est aussi de savoir donc déchiffrer les signes de Dieu. Si nous tombons sur la question de l'interprétation, avec tous les pièges dont on a tous l'expérience. Donc, par rapport à ça, je dis d'abord, Dieu ne cesse pas de nous faire des signes, en fait. Et aussi, comme le dit Job, Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on y prête attention. Et aussi, il dit la même chose de multiples manières. Et je rajouterai un troisième principe, hein, c'est qu'il aime bien dire les choses les unes après les autres. Quoi. Il ne dit pas tout à la fois. Et il nous donne la lumière pour le pas que nous avons à faire, mais il n'aime pas que l'on ait des provisions de lumière, si je puis dire. Donc il y a la question du rythme de Dieu. Et souvent on se pose des questions qui ne sont pas les questions du moment. On ne risque pas d'avoir la lumière si on n'accepte pas de rentrer dans cette patience qui fait qu'on n'avance pas après pas, qu'une lumière en prépare une autre, mais il s'agit d'abord de vivre et de correspondre à la lumière présente. Ça rejoint le principe fondamental, il faut connaître pour vivre et vivre pour connaître. Donc la difficulté, vous voyez, au niveau de la manière dont nous utilisons nos capacités intellectuelles, c'est de ne pas aller plus vite que l'Esprit Saint. Mais de laisser la pensée se déployer au rythme de Dieu, dans la lumière de Dieu, progressivement, sans forcer les choses. Vous voyez, le père Thomas Philippe, il faisait remarquer que des fois Dieu donne une petite lumière intérieure. Pour reprendre l'exemple de ce matin, bon, moi j'ai eu à un moment l'évidence que je devais quitter l'aspect, mais je ne savais pas pourquoi, pour aller où. Alors vraiment pas du tout. Mais c'est en faisant le pas de quitter que ensuite j'ai pu m'ouvrir à quelque chose, mais le Seigneur m'a rien montré à ce niveau-là. C'est seulement un an après que j'ai eu l'appel au sacerdoce. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, le père Thomas Philippe, il dit que des fois on a une lumière intérieure et on la gâche, la lumière, parce qu'on la précise de nous-mêmes. Donc il peut y avoir au départ une inspiration qui vient du Seigneur, vraiment, et qui se perd dans notre, esprit de possession, d'appropriation des lumières divines, et notre impatience qui fait qu'on leur fait dire des choses qui sont beaucoup au-delà de ce que Dieu nous dit vraiment. Donc faites attention, on est tenté sur les grâces reçues. C'est pas parce qu'on a la certitude que la lumière vient de Dieu au départ qu'on n'est pas dans le mur quelques semaines après. Alors,
quelle perspective.
Je dis, la vie est un combat continuel, hein, sans pause. Hein, donc, faut pas crier victoire tant qu'on n'est pas au ciel. Oui, mais au ciel, on pourra plus se battre. Profitons. Pour bien comprendre ce que je veux dire, je reviens sur quelque chose dont on avait parlé au week-end sur l'éducation, que notre intelligence, elle est fondamentalement non pas une intelligence raisonneuse, mais un œil capable de voir, à condition qu'il y ait de la lumière. Il y a besoin de lumière pour voir cet œil de l'âme qu'est l'intelligence. C'est Paul VI qui a dit « La conscience est un œil qui a besoin de lumière ». Et la conscience, c'est l'intelligence pratique. Une intelligence spéculative, une intelligence pratique, c'est la même intelligence sous deux facettes. C'est le même œil de l'âme, et c'est la même dépendance à l'Esprit Saint qui est cette lumière dont nous avons besoin. Donc, les vraies pensées, c'est celles qui naissent d'une perception. Mais voyez ça, c'est présent dans notre bon sens immédiat. Quand on parle à quelqu'un, on dit toujours « Mais est-ce que tu vois ce que je dis ?» Et il y a des personnes, on sent bien qu'elles disent des choses qu'elles ne voient pas. Hein, que c'est un discours tout fabriqué. Du prêt à penser, comme on dit.
Moi, je pense que c'est aussi parce qu'on peut avoir une tension vers vouloir tout comprendre. On veut tout entendre, comprendre de ce que dit la personne, et dans le fond on bloque. C'est qu'on a à ce moment-là une attitude, je pense, un peu contaminée, qui fait qu'on n'est pas disponible totalement à l'Esprit Saint, non? C'est pas un peu ça? Je sais pas.
Oui. C'est-à-dire dans le dialogue avec l'autre, le temps de l'écoute et le temps qui va dans le silence, en faisant taire la raison résonante. Le temps d'écoute est le temps pendant lequel va se mûrir la lumière intérieure. Mais si on a une tension à vouloir comprendre sans dépendre de la lumière divine, à ce moment-là, de fait, on est dans cette tension qui fait qu'on analyse tout de suite ce que dit l'autre. On raisonne tout de suite de ce que dit l'autre. Et on se perd dans des raisonnements sans arriver à accueillir une lumière plus profonde. Notamment quand on est en contact avec la parole de Dieu, il faut vraiment se méfier du vouloir comprendre. La Vierge Marie dans l'Évangile ne nous a jamais présentée comme une femme tendue pour comprendre. Il est bien dit même que face à la parole de son fils, ils ne comprirent pas cette parole, mais par contre elle gardait tout cela dans son cœur. Donc les signes de Dieu nous sont donnés pour qu'on les garde dans notre cœur jusqu'à ce que la lumière se fasse. Mais ils ne sont pas faits pour être interprétés de nous-mêmes. C'est là que je dis qu'il y a une manière d'exercer notre intelligence qui fait qu'on reste dans une certaine passivité. Il ne faut pas forcer la pensée. Encore une fois, la pensée, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière la pensée, il y a une perception. Cette perception, elle se fait passivement au sens où notre intelligence est éclairée. Elle ne s'éclaire pas elle-même. On se laisse éclairer. On laisse la lumière venir. Et ça, c'est un exercice que peu de gens savent faire dans une société où on a de la maîtrise. Il y a un lâcher-prise au niveau de l'intellect qui est très difficile à vivre.
Non, je peux simplement ajouter que je pense que cette attitude fait qu'on est enfermé même dans la réponse. On est déjà enfermé à l'avance dans ce qu'on va répondre si on n'est pas libre.
Donc, l'important, voyez, de la paix ici, je cite Saint Ignace, disant qu'il faut discerner dans un temps tranquille, mais pas de la tranquillité du malin. disant paisible, j'appelle tant tranquille celui où l'âme n'est pas agitée de divers esprits. Mettez l'intellect là, pas d'agitation intellectuelle, mais fait usage de ses facultés naturelles librement et tranquillement. Derrière cet usage des facultés naturelles librement et tranquillement, il y a cette passivité nécessaire pour l'exercice des dons de l'Esprit Saint, en fait. Parce que pour dire les choses autrement, il s'agit des dons de l'Esprit Saint. Notamment, en ce qui concerne les décisions pratiques, c'est le don de conseil. Le plus grand étant le don de sagesse qui couvre tout d'une certaine manière. Le don de conseil, c'est plus spécialement une décision, je dirais, dans pratique, le modèle du don de conseil, c'est Jeanne d'Arc, capable de devenir chef de guerre sans aucune connaissance humaine. Je dois me tenir, comme dit Saint Ignace, comme au milieu d'une balance, pour suivre ce que je sentirai davantage à la gloire et à la louange de Dieu, notre Seigneur, et au salut de l'âme. Voyez, un esprit qui se laisse faire, qui va de lui-même s'incliner dans un certain sens, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on cherche à maîtriser, sans qu'on veuille penser, sans qu'on force quoi que ce soit. La pensée donc va venir d'elle-même comme un fruit mûr. On est habitué à penser l'abandon, vous voyez, au niveau de la volonté, c'est-à-dire on remet ses projets dans les mains de Dieu, on essaie de ne pas rester dans un vouloir à tout prix ceci ou cela. Donc c'est le travail de l'indifférence dont on a parlé ce matin. Mais vous voyez, il y a aussi un abandon à vivre au niveau de l'intelligence.
J'ai vécu un petit peu cette expérience-là il y a à peu près 12 mois, où il m'a été proposé de partir au Brésil. Et je m'en réjouissais beaucoup parce que ça fait un temps que j'avais un grand désir de partir à l'étranger. On m'a dit, puisque vous êtes intéressé, très bien, on va regarder les choses, voir comment organiser les choses. Et du coup, en famille, on se préparait. Bon. Et puis après, ça traînait, ça n'était pas confirmé. Donc on se préparait, puis ça traînait, et puis du coup, on s'inquiétait, et puis ça n'avançait pas. Et ce qui fait qu'on était un peu arc-bouté pour en arriver à la décision qu'on souhaitait vraiment arriver dans le bon sens, c'est-à-dire dans notre sens, dans le sens que je souhaitais, qui était ceci et cela. Et puis finalement, ça n'est pas arrivé, je ne suis pas parti au Brésil, je ne partirai pas au Brésil. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette situation, d'être dans la paix, au niveau intellectuel, à laisser prise, à laisser le Seigneur agir en moi. Et finalement, avec le recul, donc 12 mois après, je me rends bien compte que finalement, c'était pas le désir du Seigneur, en fait, c'était pas sa volonté, en fait, c'était ma volonté, et j'y allais à coup forcé, quoi. Et bon, tant mieux si ça s'est pas fait. Il y a d'autres événements qui nous ont permis de dire que finalement tout aussi bien.
Il y a un accueil, vous voyez, de la réalité. On rejoint la question de la foi de ce matin, c'est-à-dire qu'on s'est dit que les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie à condition d'accueillir toutes choses par la foi de la main de Dieu. Je vois la question aussi de cette confiance en la providence, c'est-à-dire en l'amour miséricordieux du Seigneur en acte, dans notre vie quotidienne. Donc, ils se sanctifieront à condition d'accueillir par la foi toutes choses de la main de Dieu, de la main de leur Père du ciel. Eh bien, je dis qu'au niveau de la vie intellectuelle, le consentement, il est d'abord dans notre cœur face aux événements, c'est-à-dire d'avoir cette attitude de foi qui fait qu'on les reçoit dans la foi. Il y a un accueil du réel au fond de notre cœur qui rend possible l'accueil de l'intelligence, j'ai envie de dire. Que notre esprit lui-même s'ouvre à ce que les événements veulent dire. Je ne vois pas trop comment on pourrait déchiffrer ce que Dieu veut dire là où on bute sur les choses, où il reste un fond de colère et de révolte. Vous voyez, mais il y a un premier consentement, c'est-à-dire aussi, on aimerait consentir à condition de comprendre. Et Dieu nous prend toujours à rebours de ça. Il nous demande d'abord d'entrer dans cette confiance aveugle, basée sur la foi, pour ensuite la lumière se fasse. Dans toute épreuve, il y a un appel à suivre Jésus, donc renoncer à sa volonté propre, renoncer à soi-même, prendre sa croix, c'est accueillir les choses, les accepter progressivement, et ensuite on marche dans la lumière. C'est un religieux qui m'a dit que quand il était au noviciat, il avait dit à son maître de novice: moi je veux bien obéir, mais une seule condition, c'est de comprendre. Mais il a compris que c'était pas tout à fait ça la règle du jeu.
Il est resté,
mais il a changé de mentalité, parce que il a vite fait compris que c'était pas la logique de notre vie. On n'a que cette vie pour vivre dans la foi. Au ciel, tout sera lumineux, ou pas. À la limite, ça nous manquera, non?
On n'a que cette vie pour vivre dans la foi.
Que cette vie pour vivre dans la foi, oui, il faut en profiter.
Vous allez vous embêter, là,
Ma petite Thérèse, elle avait du mal à comprendre comment elle pourrait être au ciel vraiment bien sans avoir les épreuves, effectivement. Mais on pourra continuer à prier, à intercéder, et je pense aussi à compatir. Puisqu'on a vu la Vierge Marie apparaître avec des larmes. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'on aura le temps de voir. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que il s'agit de sortir, vous voyez, de notre petit mental, de notre petit univers d'idées, d'images, de représentations, de concepts. Et donc, sortir du mental d'abord en consentant au réel, et ensuite en mortifiant un petit peu notre raison raisonnante qui fonctionne à partir d'idées. Et qui fonctionne dans un circuit fermé, quoi, sans qu'il y ait de place pour la lumière. Donc le silence des pensées, l'accueil du réel, la patience pour laisser la lumière venir, c'est ça la passivité requise. Je dirais, vous voyez, d'une part, on pourrait dire les choses comme ça, hein, c'est une image classique, on a les yeux tournés vers le ciel, et en même temps, on colle à la terre. Habite la terre, dit le psaume. Habite la terre. Tiens-toi ta besogne, dit le Syracien. Et c'est dans la mesure où on a donc le cœur tourné vers les réalités invisibles et notre esprit attentif, ouvert à la réalité visible, puisque là sont les signes de Dieu, dans le moment présent. Mais à ce moment-là, la lumière d'en haut, la lumière des réalités invisibles, peut éclairer les réalités visibles. C'est ça le discernement, c'est de voir les choses de la terre dans la lumière des choses du ciel. C'est un fait que les vrais mystiques sont très réalistes. Hein. Il reste du chemin à faire, vous voyez, parce que y a le danger, moi personnellement, mon grand danger, je ne pense pas en être sorti entièrement, c'est un certain idéalisme. On poursuit un idéal de sainteté, on poursuit ça, et on ne se rend pas compte qu'on n'est pas vraiment tourné vers Dieu lui-même. Vous avez dit le cardinal Lustiger, je lui avais dit mon désir de la sainteté, il m'a dit, mais c'est pas la sainteté d'abord qu'on recherche, mais Dieu. C'est réaliste de vous, vous voyez. Car vraiment, tourner pas vers un certain idéal de perfection. On se fait facilement piéger par ça. Bon, ça, un réalisme, je dirais, au niveau du cœur, une intention tournée vers le bien-aimé et pas vers un idéal de soi. Et aussi une acceptation de cette réalité matérielle, de cette réalité, la réalité du mariage, la réalité de la vie, de la réalité du travail, parce que c'est là que sont les vrais signes de Dieu, les premiers signes de Dieu, pour nous guider. Et que c'est dans cette acceptation de la réalité elle-même des choses, sans projection, sans vouloir tout de suite, je dirais, leur donner un sens spirituel comme ça qu'on projetterait de l'extérieur, mais plutôt en les accueillant vraiment jusqu'au bout, qu'il peut y avoir une vraie rencontre entre la lumière divine et les réalités de la Terre. Ce qui explique le fait que les vrais mystiques soient des gens très très concrets, très réalistes, et en même temps toujours surnaturels dans leur manière de voir les choses. Ce qui est piégeant, c'est de rester dans le mental, dans l'imaginaire. Alors on a des belles pensées spirituelles, des belles images spirituelles, des belles représentations, et puis on n'est pas vraiment à l'écoute du réel, et puis on projette. On se fait des films spirituels. Cécile a un exemple auprès d'un jeune aumônier d'hôpital qu'elle a connu. Qu'est-ce qu'il faisait dans les jeunes aumôniers d'hôpital? C'était le père Louis, c'est qui ça?
Mais non, j'avais noté par rapport à votre
Alors, elle a écrit ceci. Le père Louis, jeune prêtre aumônier, prenez tout ce qui lui était dit à la lettre. Ouais, ça, c'est pas le réalisme, ça. C'est-à-dire, on n'écoute pas la personne, on n'écoute pas la réalité. La réalité, c'est la personne, en fait. On n'écoute pas ce que l'autre dit, on écoute ce qu'elle est, bon, quand on est réaliste. Donc, prenez tout ce qui lui était dit à la lettre. Oui, ma petite sœur disait que je gobais tout. Mais non, c'est vrai. Il y a une naïveté chez moi qui a mis du temps à disparaître.
Sans distance.
Sans distance. Ah, oui. Tout en suivant son idée, c'est là qu'est le mal, de ce qui est bon pour l'autre. Alors oui, évidemment, celui-là, il faut l'entraîner vers la sainteté. Donc, on n'est pas vraiment en contact profond avec l'autre, on a son idée, il parle, et on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, il faudrait que je lui dise ça, il faut que je comprenne ça, Voilà, il faut que l'Esprit Saint fasse. Vous voyez, on a son idée, on la poursuit, et on n'est pas en contact avec le réel. On peut toujours dire qu'on a de très belles idées et qu'on a, je dirais, dit de très belles choses, mais ce sera toujours à côté de la plaque.
C'est le piège de tous les parents pour leurs enfants. On a plein de belles idées pour eux et on ne laisse même pas l'Esprit Saint passer. On décide tout pour eux, comme on voudrait.
Ah, je suis pas seul alors.
Enfin, je me reconnais, hein, enfin moi.
Je confirme, dans le business, c'est la même chose.
Ça me rappelle un témoignage que j'ai entendu quand j'étais à Montmartre d'un industriel du Nord avant, au début du XXe siècle, qui avait gagné beaucoup d'argent et qui se demandait s'il allait construire une nouvelle usine. Il avait toutes les raisons de construire une nouvelle usine, mais c'était un homme de prière. Et il voulait une indication de Dieu. Vous voyez ? Parce que, encore une fois, là, il n'y avait pas de devoir d'État construire une usine. Non. Donc ça relève du bon plaisir divin. Il y allait faire un pèlerinage à la basilique du Sacré-Cœur pour avoir la réponse à sa question. Est-ce que je dois construire une nouvelle usine ? Et il a senti dans son cœur, de manière tout à fait surnaturelle, non. Quelques années après, c'était la guerre de 14. Et son usine a été rasée. Grâce à l'argent qu'il avait gagné, il a pu en reconstruire une autre. Dieu sait.
Est-ce qu'on peut rapprocher de ça la tendance qu'on a, ou dans les couples, ou même dans les familles, de vouloir changer l'autre? Alors je pense à une amie qui avait sa maman qui était, les dernières années de sa vie, qui était très âgée, mais elle n'était pas d'accord avec son comportement, sa façon de manger et tout. Elle voulait absolument changer quelque chose, si bien qu'elle allait la voir tous les 15 jours, et tous les 15 jours elle quittait en claquant la porte, et elle se quittait fâchée, et il y avait un conflit terrible. Et pour finir, c'est seulement le jour où la maman était décédée qu'elle a compris qu'en fait, elle était dans ce chemin à 80 et quelques années, elle ne pouvait pas changer. Est-ce que ça se rapproche de ce que vous dites? Est-ce que c'est... Je ne sais pas.
Il faut se dire que les vrais et bons conseils sont ceux qui vont donc aider la personne à avancer vers Dieu, vers la vie éternelle. Que ce chemin de la vie éternelle est un chemin qui dépasse absolument, totalement, ce que l'on peut humainement comprendre par toute cette base-là. C'est une fin surnaturelle qui dépasse toute intelligence, ce que l'œil de l'homme n'a pas vu, hein, ce qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Aussi élevés que le ciel au-dessus de la terre, les chemins de Dieu sont les vues au-dessus des nôtres. C'est-à-dire, on ne peut absolument pas penser de nous-mêmes ce dont la personne a vraiment besoin pour avancer vers la vie éternelle. Donc, pour garder bien ça présent à l'esprit, dans la manière dont on veut aider les personnes à se convertir, il faut absolument ne pas s'appuyer sur des idées, sur des principes comme ça qu'on applique. Parce qu'on est vraiment à ce moment-là comme des éléphants dans un magasin de porcelaine.
Mais comment dans un couple, si l'attitude de l'autre dérange vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, je ne sais pas, comment adopter cette...
Il faut croire à l'interaction entre les âmes. C'est-à-dire, si la personne, on sent qu'elle est dans un état d'agitation continuelle et qu'à cause de ça, elle prend des décisions de travers et tout ça, il faut, on y reviendra, tâcher de cultiver la paix pour la lui communiquer. Si c'est l'orgueil qui l'aveugle, tâcher d'être encore plus humble. Mais il faut faire pour l'autre ce que lui-même n'arrive pas à faire, c'est croire d'abord à la communion des âmes et des cœurs avant qu'à la puissance des paroles.
Oui, en même temps, vous écoutant, je me dis que quelquefois on voit les choses et il faut aussi oser les voir et oser les penser et quelquefois aussi oser les dire à l'autre. Hein? C'est-à-dire sans être forcément dans une affirmation, mais pouvoir aussi dire, ben voilà, moi je ressens que ce que tu me dis là, difficile à entendre, ou ce qui se passe là, pour moi c'est difficile à vivre. Voilà, ce qui peut ouvrir sur un dialogue aussi et peut-être un cheminement un peu plus en commun.
Mais vous voyez, quand on dit pour moi c'est difficile à vivre, on témoigne de ce qui nous est donné de vivre, mais on ne se donne pas le droit de dire à l'autre ce qu'il doit vivre, ce qu'il doit penser. Donc c'est une attitude d'humilité, de vérité au sens profond du terme, c'est-à-dire on dit sa vérité, comme on dit, hein, et cette attitude de vérité va aider l'autre à être lui-même plus dans la vérité. Jean-Paul II a dit que le secret de l'évangélisation, c'était l'humilité. Donc cette humilité qui fait qu'on ne prétend d'aucune manière guider l'autre ou penser pour lui, on va y revenir, hein, fait que, de fait, la lumière divine peut passer à travers nous. Mais je voudrais insister donc sur le fait de l'alliance entre un cœur tourné vers les réalités invisibles et un esprit attentif à la réalité visible. Je considérerais avec attention, dit saint Ignace, d'un côté l'utilité, les avantages qui doivent résulter pour moi de l'acceptation de cet emploi ou de ce bénéfice sous le rapport unique de la louange de Dieu. J'examinerai avec la même diligence, d'abord l'utilité, les avantages, puis les inconvénients, les dangers du refus. Je dis dans ce, voyez, je considérerai avec attention, j'examinerai. C'est pas la raison qui a raison, pas la raison qui cherche à maîtriser le réel, c'est la raison qui le regarde, qui examine, voilà, qui s'exerce tranquillement, librement, en attendant que d'incliner dans un sens ou dans un autre. En fait, c'est plus qu'humain cet exercice-là. Ça demande... c'est une activité sur fond de passivité. Je regarde de quel côté la raison incline davantage. On laisse les choses venir naturellement. Donc à partir de ce que dit là, on comprend pourquoi les mystiques mettent en garde par rapport à la mémoire. Et Saint Jean de la Croix explique que la plupart des pièges du malin, c'est à partir de la mémoire. C'est-à-dire, au lieu d'être dans d'examiner la réalité, d'être dans le moment présent et cette acceptation du réel, là où sont les signes de Dieu, je cherche à m'appuyer sur mon grenier intérieur d'expérience. Mais moi, j'ai déjà rencontré une situation semblable, je sais, je connais ce type de personne. Mais moi, ce type de... Alors, ouais, la paroissienne, comme ça, mais on a plus. Cadré. Hein. Le démon, vous voyez, il cherche à partir de là à entraîner l'âme dans toutes sortes d'imaginations. À partir de la mémoire, on lui fournit une réserve d'images, une réserve de concepts. Et si on se laisse aller à penser de nous-mêmes, c'est dans ce mental fait de concepts, d'images, sans qu'il y ait de vraie perception intérieure, que le démon, là, est prince de l'imaginaire. Vous voyez, c'est une pensée qui n'a pas de profondeur, flottante comme ça. On se laisse aller à penser un peu à n'importe quoi, à souvenir de choses. D'ailleurs, faire très attention, souvent, on tombe dans des états de trouble, de confusion, à partir d'un souvenir qu'on se met à « Ah, ça me fait penser à un truc pareil, on se laisse conduire. » C'est par le bout du nez, c'est pas par l'Esprit Saint, il n'est pas là-dedans l'Esprit Saint, c'est par le cœur. Et le mental, ça... Là-dessus, on donne une matière au malin, au prince des ténèbres.
On touche là la question de la présence à soi, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une tendance naturelle, et c'est profondément humain, de se laisser embarquer par le mental, ce qui permet de court-circuiter, entre guillemets, le mental, c'est d'être présent à ce que l'on ressent, et nous sommes des êtres incarnés, nous avons un corps, et d'être présent aussi à notre corps, à nos sensations, et en particulier à notre respiration, ce qui nous permet d'être présent à ce que l'on vit. Et ça, je crois que c'est aussi, c'est un chemin, mais c'est assez essentiel, de se poser la question, qu'est-ce que je ressens ou comment je me sens, hein. Ce sont aussi des indications sur ce qui est en train de se passer dans la réalité et dans notre réalité.
Moi, je vais encore faire une confidence. Je me suis mis à la méthode Vitos. Mais alors, pour l'instant, les résultats sont nuls parce que.
Mais du temps tous les jours.
Ben, je pratique chez la personne.
Ah, voilà.
Et à ce moment-là, je regarde les couleurs. Je vois les couleurs. Je sens la respiration, de fait. Et éventuellement, je fais attention aux gestes que je fais, quoi.
Voilà. Oui, mais attendez.
Oui.
Avouez,
et alors, ça
vous
suffit
pratiquez
pas.
Une fois toutes les trois semaines chez la personne, et oui. Est-ce que vous pratiquez entre temps tous les jours? Question.
Et alors, ça m'est arrivé de pratiquer une fois, ou deux. Et alors, suite à cette pratique, j'ai eu de fait une bonne inspiration. Parce que ça apaise le mental, le fait, vous voyez, de coller au sens. C'est pas le corps qui nous piège, c'est le mental. Donc le fait d'être dans les sens externes, ça peut favoriser l'éveil du cœur. Parce qu'en fait, on est passif quand on s'entend de voir, de sentir les choses. On reçoit, en fait. On reçoit le réel. On reçoit les signes de Dieu, on les écoute avec le corps. Ça peut favoriser une écoute du cœur. Oui ?
Je pense pour un juste équilibre.
Un juste équilibre, c'est-à-dire
disons qu'être que dans les sens, dans l'inverse, c'est un peu plus souhaitable.
Non, mais on s'interdit pas de penser, mais...
Je dis ça parce que, moi, en tant que thérapeute, psychothérapeute, c'est vrai qu'il y a un travail, vraiment, au contraire, d'essayer de mentaliser des choses qui sont vécues que à travers le corps.
Ah, pour certains.
Mais des fois, c'est le chemin inverse. Oui, mais
Pour vérifier que c'est bien. Je disais que, à l'inverse, il ne fallait pas être que dans le monde des sensations non plus, et que dans le vécu corporel, c'est un juste équilibre, je pense, entre les deux, un travail de mentalisation et un aller-retour entre ce qui se vit dans le corps, ce qui se vit au niveau de l'esprit, de la pensée. Enfin, il y a plusieurs dimensions, je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les dimensions, qu'elles puissent concourir entre elles à un juste équilibre, justement.
Mais vous êtes très dans le mental, c'est bon.
Oui, mais attention, les psychologues, ils parlent du mental, mais l'intelligence profonde, c'est pas leur truc. Donc, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit, la réalité de l'esprit, c'est pas leur domaine, ils sont dans le psychisme, la réalité de l'esprit. Or, ce qui doit être éveillé, c'est l'intelligence dans sa capacité à voir l'intelligibilité des choses, c'est-à-dire, c'est au-delà de la conceptualisation. Il y a des personnes qui sont très, très, très pauvres en concept, mais qui sont d'une grande sagesse, parce qu'il y a cette intelligence du cœur qui est éveillée. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important de pouvoir mettre des mots sur les choses, mais actuellement, le danger dans notre société, c'est plutôt les mots sans la vision. C'est-à-dire sans une intelligence réelle des choses. Alors, qu'il y a des gens qui sont enfermés dans le physique, dans la sensation, mais c'est d'abord leur esprit qui est ligaturé. C'est-à-dire leur esprit ne voit rien. Ce sont d'abord des impuissants de l'esprit. Hein? Parce que si l'esprit voyait quelque chose, la conceptualisation, elle vient d'elle-même.
Bah oui, mais voilà.
Ben, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un travail au niveau du mental pour rejoindre l'esprit. Non, je pense qu'il y a un éveil intérieur, une intériorité qui fait qu'on est à la fois très présent au réel et en même temps intériorisé.
Mais ça m'interroge ce que vous me dites là, parce que ça m'interroge, parce que du coup,
à ce moment-là, ça m'interroge, parce que ça veut dire qu'on arrête de travailler. Enfin, moi, j'arrête de travailler, quoi. Non, mais c'est une vraie question, ça m'interroge beaucoup.
Mais c'est-à-dire, il faut être conscient qu'il y a une profondeur où les choses se jouent, qui est celle du cœur et de l'esprit, au sens fort du terme, qui est le lieu où la grâce agit, et que là, en tant que thérapeute, ben, vous n'avez pas accès. C'est pour ça que vous ne changez pas radicalement la vie des gens. Pas là pour ça.
Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait du coup
Écoutez, l'homme il est fondamentalement un esprit, comme les anges. Hein. Ce sont des esprits purs. Nous, on est des esprits, mais des esprits incarnés. Donc c'est un esprit dans la chair. Et si je puis dire, entre l'esprit et la chair, il y a le psychisme, il y a le mental. C'est l'esprit agit. Les anges, ils n'ont pas de mental, parce qu'ils n'ont pas de corps. Le mental est nécessaire parce qu'on a à actionner un corps. Ils ont un rôle de médiation. Mais moi, je tiens la position que quand on est dans son corps, que le travail sur le corps et le travail sur le cœur, voilà, ça va de pair. Et que si ça, c'est bien vécu, le psychisme a tendance à suivre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, si je suis bien présent à la réalité, bien dans cet accueil du réel et bien en même temps intériorisé, je ne vois pas comment mon mental pourrait partir vagabonder n'importe où. Parce qu'il est entre les deux. On est d'accord là ?
Ouais.
Écoutez, c'est des questions évidemment très très complexes. Hein, on va pas. C'est pas trop le sujet, si ce n'est que le discernement spirituel, c'est jamais du mental fermé sur lui-même. Voilà.
Est-ce que quand même parfois on ne peut pas être spirituellement à peu près en bonne santé et psychiquement quand même malade, enfin,
oui, non, mais là je parle au niveau du discernement. Je ne dis pas, évidemment, il y a des pathologies propres liées aux blessures et tout ça, mais je parle dans le discernement. Pour ne pas se laisser entraîner dans un mental débridé, si je puis dire. Alors, je dis attention aux expériences passées, attention aux projections sur la réalité, attention à l'imaginaire, attention à la mémoire qui fournit la matière, attention aussi aux idées. Il y a maintenant des personnes qui partent comme ça sur une idée de bien évidente. Et plus je réfléchis, je me dis qu'il y a une profonde différence entre voir ce qu'il faut faire avec cet œil qui est la conscience et avoir une idée de faire quelque chose. Et souvent, encore une fois, on ne voit pas vraiment ce qu'il faut faire, on n'a pas cette sorte d'évidence que c'est ça qu'il faut faire dans le moment présent, mais par contre, on suit une idée. Et c'est très différent. Que l'idée soit bonne ou très bonne ou excellente, ce n'est pas la question. C'est qu'en réalité, on ne voit rien. Donc il faut vraiment agir avec une conscience éclairée, ce qui est bien plus qu'une bonne idée. Donc il faut laisser la conscience avec le cœur, ça va te perdre à ce moment-là, de laisser le temps s'ouvrir. La mémoire, évidemment, elle est utile, Dieu nous l'a donnée, c'est pas pour rien, mais j'ai envie de dire qu'il faut laisser l'Esprit Saint la gérer. Jésus dit explicitement, hein, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'Esprit Saint a un rôle de mémoire vivante. Il fait que les signes dont on a vraiment besoin et qui nous ont été donnés dans le passé nous reviennent au moment voulu, si on les a gardés dans son cœur. C'est la mémoire du cœur avec laquelle fonctionne l'Esprit Saint. Alors, des fois, vous voyez, le Seigneur nous donne de vivre des événements à travers lesquels il nous travaille, il nous parle en fait, il nous travaille, qui nous font. Je vois, comme j'ai vu à l'hôpital, donc ce travail de. Ça décante l'épreuve, les choses qui se décantent, la personne qui progressivement arrive à voir l'essentiel qu'elle avait, côté duquel elle était passée quand elle était en pleine activité. Et en parallèle, il nous donne des paroles, c'est-à-dire il aime bien confirmer par le canal d'une parole extérieure ce qu'il murmure au cœur à travers les événements. Mais ça, on le voit dans la révélation, c'est-à-dire l'histoire sainte, c'est des événements. C'est pas que Dieu qui parle à Moïse sur le mont du Sinaï en lui donnant des paroles, mais c'est aussi ce qui s'est passé en Égypte, la traversée de la mer Rouge, c'est les événements eux-mêmes. Le conseil dit, hein, l'économie de la révélation se fait par des actions et des paroles si étroitement liées entre elles, que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut rendent évidentes et corroborent la doctrine et l'ensemble des choses signifiées par les paroles, et que les paroles proclament les œuvres et font découvrir le mystère qui s'y trouve contenu. Ce qui est vrai au niveau de l'histoire sainte, c'est-à-dire cet éclairage mutuel des paroles et des événements, est vrai dans notre vie, qui est une histoire sacrée. La même économie de la révélation. Moi, j'aime bien dire qu'on a deux livres, le livre de notre vie et puis le livre des Saintes Écritures qui s'éclairent l'un l'autre, qu'il faut lire l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on retombe sur la question de est-ce que je vis ma relation à Dieu avec ce que je suis et ce que je vis, ou est-ce que c'est deux mondes parallèles dans lesquels je ne laisse pas vraiment Jésus, compagnon de route, rentrer. Là, je fais mes prières, mes méditations et puis je vis ma vie à côté. Mais là, la plupart des bons chrétiens, ça reste très. Ça a du mal à se connecter. Hein. Alors que c'est fait pour. Ta parole, une lumière qui éclaire mes pas. Elle est faite pour éclairer mes pas. Elle n'est pas faite pour éclairer comme ça, dans un monde d'idées, de belles méditations. Elle est faite pour éclairer la réalité présente.
Parfois, la parole, justement, elle nous prépare à vivre ce qu'on a à vivre la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les textes d'Évangile, il y avait Saint-Pierre qui demandait à Jésus « Combien de fois est-ce que je dois pardonner ?» Et Jésus lui répond « 77 fois, 7 fois, ça veut dire l'infini en fait. » Alors je réfléchis dans mon cœur, je me dis « Bon, pour l'instant, ça va pas mal, je n'ai pas vraiment de gens qui… Alors qu'est-ce que je fais de cet Évangile ?» Puis quand même, je me suis dit « Peut-être qu'il me servira dans la journée. » Donc je l'ai vraiment bien gardé, et en fait, c'est un jour où j'en ai vraiment eu besoin, parce que l'après-midi, j'ai appris quelque chose d'assez violent, et j'aurais pu en effet partir dans la colère ou le ressenti, et je me suis accrochée là, à cette parole, donc souvent je remarque qu'une parole nous prépare aussi à vivre ce qu'on a vu dans la journée. Merci. ce moment, comme parole qui me parle, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est bien pour Karen, je ne sais pas jusqu'où il va m'emmener, mais bon, je ne sais pas encore où je vais.
Cécile avait eu la même.
Oui, moi, je l'ai eu pendant 2 ans, il y a longtemps de ça. Et c'est vrai que j'ai eu la grâce, je n'ai pas compris pourquoi, de l'accepter, de le recevoir bien, de ne pas chercher à comprendre. Et puis, a suivi tout de suite des pertes de mémoire catastrophiques pour mon travail, des absences et tout un tas de choses. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai accepté tout ça. Je suis abandonnée. Et puis, enfin, voilà, ça a fait son chemin. Puis, je suis encore là. Parce que mes collègues disaient, mais ça y est, j'avais 50 et quelques années, c'est assez la mère. Enfin, bref. Et non, je suis là.
C'est un fait que quand Dieu purifie profondément une personne, il c'est comme s'il vidait la mémoire. Il ligature la mémoire. La personne n'en a plus l'usage. Partie des purifications profondes. Mais écoutez Jésus, je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez. Donc il y a des paroles qui nous sont dites maintenant, on ne sait pas pourquoi elles nous touchent, mais on le sait quand les événements arrivent. Seigneur nous demande de les garder sans chercher à les analyser, à les interpréter de nous-mêmes. Vous faites bien de la regarder, la parole de Dieu, comme une lampe qui brille dans un soleil, dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. On garde la parole jusqu'à ce que la lumière se fasse. Sinon, si on ne garde pas la parole dans la patience du rythme de Dieu, si je puis dire, et en restant bien à l'écoute du réel, eh bien on fait, comme je l'ai dit, des projections. Personne qui cherche à savoir si elle est faite pour se marier avec quelqu'un m'a dit, ben, justement c'était la parole, elle dit, ben, j'ai tombé dans l'écriture et Dieu dit, je serai ton époux, alors j'ai compris que je devais me marier. J'ai dit, oui, enfin, c'est Dieu qui parle là, et... ça pourrait éventuellement signifier autre chose, on va peut-être laisser pour l'instant mûrir. Hein? Bon, oui, ah bon, bien. Et on a tout vu hein, dans le cadre du renouveau charismatique, au niveau des interprétations des paroles reçues, on a tout vu. Bon, on n'a pas fini d'en voir. Cette spiritualisation artificielle et superficielle qui fait fuir un peu parce qu'on se dit, bon, vraiment, il plane. Hein. C'est plein de nos désirs à nous et qui fait qu'on se sert de la parole de Dieu inconsciemment. Hein. Ceci dit, il n'y a pas que les charismatiques qui planent. Vous voyez, à certains moments. Parce que j'y repensais, hein. Excusez-moi de citer une parole de Bernanos, mais qui disait, c'est pas tout à fait juste, disait le réalisme c'est le bon sens des salauds. Bon. Moi, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont dans un réalisme froid, comme ça, comme l'air très, très, comme on dit, à pied sur terre, et qui en fait planent, au sens où le mauvais riche plane. Ils ne voient pas du tout dans quel danger il est, ils ne voient pas le vrai sens des choses. C'est eux qui planent encore plus que les pauvres charismatiques qui rament. Hein. C'est-à-dire, pour moi, ils cherchent vraiment la volonté de Dieu quelque part, mais ils interprètent mal, ils tombent dans des pièges. Mais le premier piège, c'est l'aveuglement du monde. Hein. Pas avoir trop de complexe non plus, parce que des fois on se dit, oui, nous les chrétiens, on n'est pas assez proche du réel. Mais moi, je préfère planer un petit peu spirituellement et chercher la volonté de Dieu que d'être dans ce faux réalisme que propose le monde. Vous me confirmez, les hommes, dans la pâte du business?
Oui.
Ouais. Est-ce que l'on peut, dans cette question du discernement, arriver à exploiter la différence entre l'homme et la femme? L'homme, il jette la semence. Hein. Il jette la semence et il a tendance à conceptualiser facilement. Et dans sa conceptualisation facile, il a tendance davantage à Je prends une expression tirée des œuvres d'Heidegger traduites en français, par je ne sais plus qui, mais enfin une expression très forte, et à raisonner le réel, la maîtrise par la raison, par le conseil. Et de ce fait, il peut plus facilement oublier que la vérité d'abord se reçoit. Elle est découverte ou mieux reçue, comme dit Benoît XVI. Précisément parce qu'elle dépend fondamentalement d'une lumière qui ne vient pas de moi. La femme, elle, ici je cite un cardinal allemand, Joseph Ratzinger, oui. La femme a plus facilement le sens et le respect des choses concrètes, qui s'opposent aux abstractions souvent mortifères pour l'existence des individus de la société. Vous voyez, ça ce serait le danger de la conceptualisation qui peut aller jusqu'à l'idéologie. Toutes les grandes idéologies modernes, c'est des œuvres masculines, hein, on est bien d'accord. Donc, ce sens concret, ce sens des réalités concrètes du côté de la femme, qui fait que elle saura peut-être mieux vivre cette alliance entre l'amour et la vérité, aussi dans le sens d'un accueil des choses, une écoute de l'autre avant de lui parler, un accueil, une compréhension, une patience. Il n'y a pas l'intelligence que l'amour, dit Benoît XVI, il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Donc on comprend bien pourquoi spontanément on dit que la femme a plus de facilité à rentrer dans l'intelligence du cœur, à venir à cette pleine clairvoyance, hein, pour discerner les situations concrètes, ce qui est vraiment le meilleur. Le sens des petits détails auxquels on a tendance, nous les hommes, à ne pas faire attention. Je me souviens de Sainte Thérèse d'Avila commençant le chemin de la perfection pour expliquer pourquoi elle écrit un livre sur la vie spirituelle alors qu'il y a tant de prêtres, de directeurs spirituels qui sont beaucoup plus doctes qu'elle et qui peuvent dire des choses tellement plus, je dirais, plus riches de leur science. Elle dit, c'est parce que moi je vais mettre en évidence qu'il y a des détails qui sont importants. Là, typiquement féminin. Oui. Ça vous fait penser à quelque chose ?
Mmh. Ah, voilà. Il y a plein de choses écrites.
Vous voulez
dire par rapport à vous ? Oui, mais que je vous mette encore en cause.
Mettez-moi en boîte un petit peu.
Non, mais dites-le. Vous voulez dire par rapport. Ah oui, au fond, à la monnerie, on fonctionnait un petit peu complémentaire, donc un petit peu ce que peut vivre un couple. Et c'est vrai que c'était très difficile parce que le père, quand il était jeune, était très très désordonné. Et il demandait beaucoup aux bénévoles et donc il avait un non-respect des autres. Enfin, moi je le vivais comme un non-respect des autres. Mais tout lui semblait sans intérêt. Quand on lui disait quelque chose, bon, c'est pas intéressant, manger debout, n'importe comment, c'était pas intéressant, laisser tout traîner. La seule chose qui comptait, c'était les malades et la prière. Alors moi je dis quand même que c'est difficile de discerner parce que. Vraiment, on a envie d'être sévère avec lui, mais il y avait une telle présence aux malades, une telle qualité d'être auprès des malades, que c'est vrai, reprocher, je ne sais pas si c'est le mot, et puis en même temps, respecter ce qu'il était, ce qui était beau, moi je dis que c'est très très difficile. Je trouve que c'est un exemple qui, comment discerner, quelle est la priorité en fait.
J'ai beaucoup plus le sens maintenant que la vie spirituelle c'est tout un ensemble et que tout est important et que Dieu peut nous donner des lumières pour le salut des âmes, pour l'accompagnement des malades, après nous avoir éprouvé sur le terrain d'un rangement, d'une vaisselle, d'une attention à des choses. Tiens-toi, confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne, ne répugne pas aux besoins pénibles, dit l'Ecclésiastique chapitre 11. Parce qu'il est facile pour le Seigneur d'élever un pauvre. C'est-à-dire, on est dans des choses pratiques, concrètes, qu'on aimerait ne pas avoir à faire. Et en fait, la lumière dont on a besoin pour sauver les âmes, elle va être donnée comme le fruit aussi de cet exercice de patience. C'est là qu'il faut se dire que Dieu, lui, c'est Il prépare les choses à l'avance, il nous fait passer par des exercices pratiques qui en fait n'ont rien à voir avec l'œuvre, mais qui ont à voir avec notre propre conversion et ce travail que nous avons à faire à nous-mêmes pour nous rendre disponibles à l'Esprit Saint. Donc moi au départ j'étais dans le truc, je me disais ce qui est important c'est le salut des âmes, les malades, la prière, le reste, laissez-moi tranquille. Voilà. Et de là, beaucoup d'erreurs discernement. Parce qu'il y a une capacité à écouter le réel qui ne peut pas être à un moment simplement. Je veux bien que j'ai une présence au malade par grâce comme ça, mais la présence à la réalité, c'est un ensemble aussi. On ne peut pas dire moi je suis présent juste là, et puis le reste, je ne veux pas être présent. Quoi. Voilà.
Ce qui rend encore plus difficile la compréhension de l'évangile de Marthe et Marie.
Il faut être les deux, dans la vie.
Les deux. Bah oui, mais c'est Marie qui occupe la même place.
Oui, mais attention, Jésus ne reproche pas à Marthe d'être active, il reproche d'être inquiète et agitée, c'est-à-dire pas bien dans le moment présent. Parce qu'en restant dans le moment présent, elle resterait au pied de Jésus. Elle resterait à l'écoute du divin maître qui parle à travers les choses. Quand on les vit dans cet accueil et pas d'une manière stressée, active, impatiente, énervée. De sauver une âme en ramassant une épingle avec amour. Donc il n'y a pas un côté des gens qui sont obligés d'être actifs et qui passent à côté de Dieu, puisque Dieu nous attend sur ce terrain-là, pour parler à notre cœur. Mais ça tout dépend profondément de l'intention du cœur avec lequel on fait ces choses, du fait qu'on accueille les choses en fait pour accueillir la volonté de Dieu qui se cache derrière. C'est Dieu qu'on accueille à travers le réel. L'événement c'est moi, fait dire Peggy à Dieu. L'événement c'est moi. On revient sur cette question de la foi, hein. Recevoir par la foi toutes les choses à la main de Dieu, tout ce qu'on a à faire et à supporter dans une journée, pour pouvoir le vivre surnaturellement. Et en se laissant guider par le Seigneur à travers les choses elles-mêmes d'abord, tout en ayant aussi les saintes écritures qui confirment, qui complètent, qui nous sont données aussi donc, pour, rejoindre ce que Dieu murmure à notre cœur à travers ces réalités sensibles. On est bien d'accord ? Alors, on n'en a pas fini de magnifier la femme. Par son ouverture, elle a la capacité de garder dans son cœur les événements, la parole de Dieu, comme Marie nous le montre, la femme dont le cœur est à l'écoute. En ce sens-là, elle est la sentinelle de la vie cible. On voit beaucoup dans l'écriture des femmes prophétesses qui voient dans les choses visibles les réalités invisibles, c'est très bien. Mais je marque tout de suite que ça a un revers, c'est-à-dire que si ce n'est pas la lumière de la charité divine, c'est l'affectivité qui meut. On se laisse prendre par les émotions. C'est le revers. Hein? Bon. En plus, je dis, c'est une chose de percevoir la signification profonde des réalités, d'être attentif à différentes réalités, et une autre chose, l'objectivité et la perspicacité dans la manière d'envisager les problèmes qui fait qu'on arrive à prendre la décision vraiment juste. On peut très bien avoir de belles lumières sur certaines choses, percevoir que telle personne, elle vit telle chose, sentir des choses, tout ça, et pour autant, on n'arrive pas jusqu'à la décision juste, qui relève de la raison. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la femme peut voir des choses auxquelles l'homme ne fait pas attention, être sensible, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a le dernier mot.
Que pour la femme aussi, c'est aussi reposant de pouvoir apporter des choses qu'elle ressent dans son cœur, et puis savoir que la décision ne lui appartient pas, en fait, que son mari aura la force et le discernement pour trancher à travers ce qu'on peut dire. Je trouve que c'est vraiment une grâce du couple.
Confier à l'homme ce qui lui est donné de voir, pour l'éclairer, l'inspirer et faire confiance qu'il peut avoir la grâce propre en tant qu'il est plus particulièrement celui qui tient la place du Christ tête de cette petite église qui est la famille, qui va avoir la grâce de poser le jugement raisonnable, éclairé, avec sa raison, et une raison qui aura été, enrichie par la perception des choses propres à la femme. Je rappelle que il y a des situations qui relèvent simplement de la lumière naturelle de la raison, où il s'agit d'appliquer la loi morale. Et là, les hommes peuvent se sentir plus à l'aise, hein, plus de disposition à une application rationnelle de la loi morale. Si on regarde par exemple les grands casuistes, la casuistique, l'application de la loi morale au cas particulier, sont tous les hommes qui ont fait ce genre de traité. Autant les femmes font des traités de vénistique, mais la casuistique, c'est-à-dire vraiment de voir dans quelles circonstances, à partir de comment on peut appliquer telle pratique, par exemple ce que j'ai fait la dernière fois par rapport à la question de la contraception, ça c'est une approche masculine. Parce qu'on est dans la raison qui raisonne, qui doit raisonner droitement. Alors ce que je dis, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles la solution, la réponse, juste, dépend simplement de la lumière naturelle de la raison. Par exemple, un évêque a dans son diocèse un prêtre qui fait du mal aux enfants. Il n'a pas à chercher des signes de Dieu, des inspirations dans la prière pour appliquer le droit canonique. Il n'a pas à écouter la prophétesse du coin qui lui dira qu'il a à suivre, j'allais pas dire bêtement, mais simplement et humblement ce que la droite raison exige. Il ne faut pas attendre à ce moment-là que quelqu'un ait une prophétie, une inspiration divine pour dire « Attention, vous n'êtes plus dans le droit chemin » parce que, explique Saint Jean de la Croix, Dieu n'a pas coutume de le révéler. Ce qui peut se comprendre par la raison et le jugement humain, Dieu n'a pas coutume de le révéler parce qu'il veut toujours que l'on se serve de la raison et du jugement humain autant que l'on pourra. Toutes les affaires doivent être réglées par eux, sauf en ce qui est de la foi qui surpasse le jugement et raison. Non. Alors, il explique pourquoi Saint Pierre s'est trouvé en faute, vous savez, sur la question du rapport avec les païens qui s'étaient convertis et qu'à un moment Pierre a arrêté d'aller chez eux et de prendre leur repas avec eux parce que c'était contraire à la loi juive et que certains pharisiens convertis trouvaient ça scandaleux, et donc à ce moment-là Paul le reprend en lui disant: attention, tu n'es pas dans le droit chemin de l'évangile. Et Saint Jean de la Croix dit, ben, comment se fait-il que Pierre, qui avait une telle intimité avec Jésus, qui avait de tels charismes, n'ait pas été averti par Dieu qu'il était en train de suivre un mauvais chemin? Pourquoi Dieu n'avertit pas lui-même Saint Pierre de sa faute? Parce que cette simulation était chose qui tombait sous la raison naturelle et qu'il pouvait le savoir par voie rationnelle. Donc, grand danger de vouloir se conduire par discernement spirituel au sens d'un mode d'inspiration qui viendrait comme ça dans le cœur. On attend de l'inspiration, moi je sens très fort que. Non, c'est pas je sens très fort que. S'il y a une loi, je l'applique. Tac. Il faut tenir bon, parce que là, le malin, il peut en donner des fausses lumières. Alors j'attends une lumière de Dieu là où en réalité j'ai rien à attendre. Et donc, écoutez, la finale, elle vaut ce pesant de cacahuètes. Il n'est donc pas absurde qu'une femme très pieuse écoute respectueusement un mari incroyant ou peu croyant, lorsque celui-ci exerce légitimement son autorité au service du bien commun familial en aidant chacun à trouver sa juste place. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous voyez le schéma? C'est-à-dire, la femme, elle a plein de lumière dans la prière, un mari qui est simplement un homme de bonne volonté et qui raisonne, Et très fréquemment, on voit, c'est Marie qui, avec sa raison, arrive à trouver la solution juste, puis la femme elle reste avec ses lumières. Mais attention, c'est tout simplement, ça ne relevait pas de lumière surnaturelle. Et ça, c'est le truc classique. Et c'est là qu'il faut avoir confiance que Dieu parle à travers la raison naturelle aussi. Vous savez, j'ai connu une personne qui voulait faire des exercices spirituels pour savoir si elle pouvait épouser un homme divorcé. Non, il y a un droit canonique, il y a l'Église qui dit que je vais déconseiller de faire une retraite, c'est pas la peine de fatiguer un prêtre pour rien. Non, c'est pour ça que il faut à un certain moment vraiment garder la tête froide. Et sans prendre ni par les émotions, l'affectivité, ni par des pseudo-lumières qui nous voilent la lumière ténue de la conscience, qui ne fait pas de bruit, mais qui est là et qui nous titille en disant mais, attention, il y a un truc là, tu t'oublies que.
Excusez-moi, on ne perd pas la différence entre ça et ce que vous disiez précédemment sur le fait que le discernement ne s'applique qu'après l'accomplissement du devoir d'état.
Oui, il n'y a pas de différence fondamentale, si ce n'est que quand on est habitué à fonctionner sous mode de « je prie » et de fait j'ai raison pour y voir clair, parce que je dépends de la lumière divine, on risque quelquefois de négliger, ouais. De négliger la simple lumière naturelle de la raison. Et c'est là que je dis que la complémentarité homme-femme peut jouer, parce que l'homme a tendance plutôt à s'accrocher à la raison. Et donc je dis dans certains cas, il a raison de s'accrocher à la raison. L'homme, écoutez Benoît XVI, soyez sage, l'homme n'est pas parfait en soi. L'homme a besoin de la relation. Il est un être en relation. Et attendez, regardez la bête. Ce n'est pas son cogito qui peut cogitarer toute la réalité. Ce n'est pas son cogito, je pense, qui peut cogitarer toute la réalité. Cogito, ça veut dire je pense. Cogito, un peu sourd, je pense. Ce n'est pas son cogito. J'ai besoin de l'autre pour penser. C'est Dieu qui le veut. Il y a une complémentarité en plus admirable donc, dans la manière d'appréhender et de rechercher la vérité de l'homme et de la femme. Et par ailleurs, l'homme est un être de relation. Il a besoin de la relation pour vivre, il a besoin de la relation pour penser. Donc vive le mariage, mais vive l'Église aussi. Et c'est évident que, voyez, le fait que les femmes trouvent leur place dans le processus décisionnel, dans le cadre des paroisses, de cette grande famille qui est la paroisse, c'est très, très important qu'on les écoute. Même s'il y a beaucoup de choses qui relèvent simplement aussi, pour la gestion d'une paroisse, de la droite raison et du bon sens pastoral, malgré tout, vous voyez, la place de la femme dans l'Église, à mon avis, ce ne sera pas réglé tant qu'on n'aura pas, on mettra pas en avant cette place du regard de sagesse. Sur les choses qui fait que de se laisser inspirer par la femme. Alors là, elle a eu une réaction non, typiquement masculine. Là. Ça m'étonne parce qu'elle me montre la montre et elle me fait comprendre que c'est l'heure.
Oui, ils sont envoyés par Jérôme.
Ah, c'est Jérôme. D'accord. Je me disais, c'est pas logique. C'est pas logique que ça vienne d'une femme. Ça peut être qu'un homme. Ah oui, bon, je termine simplement pour souligner que dans la conclusion qu'on peut tirer aussi de ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est que pour aider l'autre à penser, c'est pas nécessairement penser à sa place. Vous voyez, c'est même jamais vouloir penser à sa place, c'est plutôt l'aider à se disposer pour qu'il puisse accueillir la lumière divine. Et là, on peut faire beaucoup en communiquant la paix, en apaisant la personne. On peut faire beaucoup en l'aidant à voir plus clair quant à son intention. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Donc, voilà. On va s'arrêter là parce qu'on va oublier à l'heure.
Oui. Vous pensez que la femme d'aujourd'hui, elle est encore comme ça?
Non. D'aujourd'hui.
autre question. Dans la société.
La femme d'aujourd'hui, comme elle n'écoute pas Dieu, elle perd la boussole. Comme elle est faite pour écouter. Et celle qui écoute Dieu, eh bien, elle est souvent tellement décalée, hein, avec un monde qu'elle écoute, qui n'écoute pas Dieu, qu'elle a du mal à se faire entendre.